c'est le journal de Claire Fauchel. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Un bac plein d'incertitudes. Les premiers résultats, c'est maintenant à 8h, mais des résultats provisoires pour certains avec la grève des correcteurs. Depuis le début de l'année, au moins 70 femmes ont été tuées par leurs compagnons. Un collectif de proches de victimes appelle Emmanuel Macron à prendre des mesures immédiates pour lutter contre les féminicides. Vous entendrez un témoignage rare dans ce journal.
Les démocrates lui reprochent d'utiliser l'occasion pour faire campagne. Donald Trump, surtout très patriote hier soir, lors de la fête de l'indépendance américaine à Washington.
Le président américain s'est offert un défilé militaire, une première aux États-Unis inspirée de notre 14 juillet français. Dans une Grèce traumatisée par les plans d'austérité à répétition, Mitsotakis fait campagne avant les législatives de dimanche. Priorité numéro 1, relancer l'économie. C'est ce que martèle le principal rival du Premier ministre, sortant son portrait dans ce journal. Jour J donc pour les 740 000 candidats au bac, c'est ce matin et pour certains d'entre eux à l'instant qu'une grande partie connaissent leurs résultats, des résultats qui risquent d'être perturbés et pas définitifs pour une partie des élèves à cause de la grève des correcteurs qui dénoncent la réforme du bac. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, a quelque peu minimisé le phénomène hier soir en rappelant que seulement 0,35% des 175 000 correcteurs étaient encore en grève. Ce qui n'empêchera pas à Hakim Kasmi certaines mesures exceptionnelles pour les candidats concernés.
Pour Jean-Michel Blanquer, le phénomène est marginal, mais néanmoins gênant. Car même si au dernier décompte, il ne restait plus que 700 correcteurs grévistes et 30 000 copies bloquées, il n'en demeure pas moins que des candidats seront pénalisés. Pour eux, c'est donc le contrôle continu qui prévaudra en cas d'absence des notes dans une épreuve. Ce qui risque de créer des inégalités, une décision qu'assume parfaitement le ministre de l'Éducation, qui rappelle que si les copies sont rendues, c'est la meilleure note qui sera retenue.
Face à ces circonstances exceptionnelles, il est normal de choisir la meilleure des solutions possibles. La plus grande rupture d'égalité aurait été que des élèves se trouvent avec des résultats et d'autres pas. Mais je le redis, si quelques jours plus tard, lorsque nous aurons la copie définitive, la note est meilleure, nous mettrons cette note-là, évidemment, et chacun aura une attestation définitive le moment venu.
En attendant, les candidats concernés verront donc ce matin sur le tableau d'affichage des résultats la mention « note provisoire », des mesures que dénoncent les syndicats comme le SNES qui n'hésitent pas à parler, je cite, « de véritables guerres » et qui invitent donc les élèves à faire des recours en justice. Martine Codoré, élue du SNES à Créteil.
C'est une inégalité entre les élèves. Prenez deux élèves, un qui a toutes ses notes et l'autre qui n'a pas toutes ses notes, et qui risque de se faire pénaliser en mettant la note du contrôle continu. Donc il faut que les élèves, surtout, redemandent leur copie, fassent des recours pour avoir effectivement leur véritable note.
Enfin, Jean-Michel Blanquer prévient que les enseignants grévistes seront lourdement sanctionnés, ce qui risque encore plus de dégrader ses relations avec les syndicats et une partie du monde enseignant.
Reportage signé Hakim Kasmi. Un rassemblement organisé demain à Paris pour demander la mise en place d'une politique de prévention des féminicides. C'est un collectif de familles et de proches de victimes qui veut se faire entendre. Alors que depuis le début de l'année, au moins 70 femmes ont été tuées par leurs compagnons. Écoutez ce témoignage recueilli par Wafia Kenich, celui d'une femme dont la mère est morte il y a des années.
Lui était gendarme, elle mère au foyer. Elle subissait des violences depuis des années. Un jour, cet homme a tué sa femme en l'étouffant. À l'époque, leur fille, Anne-Caroline, avait 17 ans.
C'était le 23 février 1997. J'ai été réveillée par les cris de mon père qui disait qu'il avait tué ma maman, qu'il avait tué ma maman. Je suis allée dans la chambre et j'ai trouvé ma maman morte sur son lit. Depuis toute petite, j'avais assisté au viol, à des scènes d'une violence mais extrême où mon père frappait ma mère. Il était toujours en train de la rabaisser. Je pense qu'on n'imagine jamais que son père peut tuer sa mère.
En 2001, la justice le condamne pour coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Une responsabilité que la famille paternelle n'a jamais voulu admettre.
C'est pas possible que ton père ait pu faire ça, donc tu diras que ta maman est tombée dans les escaliers et qu'elle s'est rompue le cou. Le pire, ça restait les mensonges, parce que les mensonges, c'était enterrer ma maman une deuxième fois, la tuer une deuxième fois. Se construire en tant qu'enfant en portant ça, c'est une catastrophe, vraiment, ça détruit. Je veux qu'aujourd'hui, un enfant dont la maman est morte sous les coups de son mari, je veux qu'il puisse le dire et qu'il n'ait pas honte. Parce que ça aussi, on ne le dit pas, on a tellement honte de ça.
Pendant 22 ans, Caroline s'est tue. À 39 ans, elle parle enfin. 39 ans, c'est l'âge qu'avait sa mère quand elle a été tuée par son père.
Wafia Kenish. Et ce collectif de familles et de proches de victimes appelle Emmanuel Macron à prendre 5 mesures immédiates pour lutter contre les féminicides. Dans une tribune publiée hier dans Le Monde, ce texte appelle notamment à donner la consigne ferme aux commissariats et gendarmeries qu'aucune femme victime de violence au sein du couple ne reste sans réponse et à augmenter le nombre d'ordonnances de protection attribuées en France. L'heure des réquisitions au procès France Télécom au tribunal de Paris cet après-midi. L'entreprise et son ancien PDG Didier Lombard jugés pour harcèlement moral après les dizaines de suicides de ses salariés à la fin des années 2000.
La suite de votre journal Claire Flochel, 8h06 sur France Culture. Et une semaine chargée au niveau européen qui se termine avec une relative bonne nouvelle. L'Union européenne se féminise.
On le voit à travers le choix de 2 femmes pour présider la Commission européenne et la Banque centrale européenne. 2 postes jamais occupés par des femmes jusqu'ici. On le voit aussi au Parlement européen où il y a désormais 40% de femmes, même si les hommes restent donc majoritaires. Rosalie Lafarge.
16% de femmes dans le premier Parlement européen élu au suffrage universel direct en 1979, 40% aujourd'hui, c'est mieux, on ne peut pas le nier, mais ce n'est pas encore ça pour l'eurodéputée Renaissance Fabienne Keller.
C'est toujours drôle parce que le plafond de verre quand même fonctionne. On constate que dès qu'il y a des postes à responsabilité, on retrouve une majorité d'hommes.
Mais ils ne sont plus seuls aux responsabilités. Anne Sander en est la preuve, élue sur la liste Les Républicains. Elle vient d'être nommée première questeur du Parlement européen et elle compte sur Ursula von der Leyen à la Commission ou Christine Lagarde à la Banque centrale pour susciter des vocations.
C'est des très beaux exemples pour l'ensemble des femmes chez nous, en France et en Europe, parce que oui, c'est possible, on peut le faire.
Il faut se rappeler quand même qu'on vient de loin. Hein.
Et il reste encore un peu de travail, notamment sur les comportements masculins, parfois surprenants, au XXIe siècle.
Il me revient en mémoire un certain Janusz Korwin-Mikke, qui avait une phrase absolument stupéfiante, où il considérait que les femmes devaient être moins payées, parce que de toute façon, elles sont plus petites et moins fortes, et moins intelligentes.
Donc. Sylvie Guillaume, du groupe Socialiste et Démocrate.
Il y a quand même un souci de visibilité et d'établissement des règles. Des choses ont eu lieu, on a progressé, par exemple, dans l'engagement à avoir une attitude correcte, qui est un engagement du départ du mandat, qui peut être soumis à des sanctions aussi. Donc on doit être, comme toujours dans ce type de domaine, à la fois réglementaire, mais aussi dans l'évolution des mentalités.
Des mentalités différentes selon les États de l'Union. Visiblement, 6 pays, dont la France, ont envoyé cette année un contingent paritaire au Parlement européen. La Suède et la Finlande ont plus de femmes que d'hommes. Mais Chypre n'est de son côté représentée que par la gente masculine.
Quand Donald Trump s'inspire de notre 14 juillet et exalte les valeurs de l'Amérique, discours d'une heure prononcé il y a quelques heures sur les marches du Lincoln Memorial de Washington pour la fête de l'indépendance, et on peut le dire pour sa campagne de réélection, défilé aérien à l'appui, Gregory Phillips a assisté aux festivités.
Avec derrière lui le mémorial de Lincoln, le président américain est le maître de cérémonie et il annonce les avions qui, dans quelques secondes, vont survoler le cœur de la capitale fédérale et les milliers de ses supporters réunis sur le mall. Le défilé aérien est impressionnant, avec l'avion présidentiel Air Force One ou le bombardier furtif B-2 qui survole Washington à basse altitude. Mais il n'y a pas de parade militaire comme à Paris. Quelques blindés ont été posés là, autour du mémorial, mais ils ne circulent pas. C'est énorme, cette célébration de l'Amérique, dit tout de même Ruana, venue du Texas. On a un président formidable, nous sommes fiers d'être Américains. Le discours de Trump est pour une fois rassembleur et vise surtout à exalter le soutien aux troupes et le patriotisme. Mais un peu plus loin, des contre-manifestants protestent. Sur ma pancarte, j'ai écrit qu'il a piraté cette fête nationale, dit Rick. Et son ami américain reprend, normalement cette journée doit être apolitique, transpartisane. C'est pour ça que les gens d'ici sont très énervés. Ce 4 juillet se termine, comme le veut la tradition, par un gigantesque feu d'artifice. Avec ce discours et ce défilé aérien, Donald Trump a un peu bousculé les habitudes, mais pas tant que ça finalement.
Grégory Phillips, correspondant de France Culture aux États-Unis. Est-ce la fin de l'ère Tsipras en Grèce? Élection législative ce dimanche. Principal rival du Premier ministre sortant, le leader du parti Nouvelle Démocratie, Kyriakos Mitsotakis, qui caracole largement en tête dans les sondages. Marie-Pierre Véraud nous dresse son portrait depuis son meeting hier soir à Athènes.
Au pied de l'acropole résonne le nom de Mitsotakis. Dans une forêt de drapeaux bleus et blancs aux couleurs du pays, c'est l'enfant d'une longue dynastie politique en Grèce qui est ainsi acclamé. Kyriakos Mitsotakis est Gonos, fils d'eux, comme disent ses détracteurs. Son père fut Premier ministre, sa sœur ministre de la Culture, des Affaires étrangères, maire d'Athènes également, une ville que vient d'ailleurs de remporter son neveu. Troublant dans un pays longtemps rongé par le népotisme, mais la foule qui scande. Le voilà, le Premier ministre ne semble s'en soucier. En bras de chemise, décontracté, Kyriakos Mitsotakis a trouvé lors de cette campagne les accents propres à séduire chacun. Il promet la baisse des impôts, le retour de la sécurité, des investissements et des emplois bien payés, flatte la classe moyenne, colonne vertébrale de ce pays, dit-il. Il promet de partager la richesse, de réformer l'administration. Des mots doux aux oreilles de Grecs épuisés par près de 10 ans de crise et d'austérité. Les dames tordent de la tête pour apercevoir le jeune réformateur que ses partisans aiment comparer à Emmanuel Macron. Proche des milieux d'affaires, il est passé par la banque et le consulting. À la tête de Nouvelle Démocratie, Mitsotakis a déjà gagné les européennes, puis les régionales et municipales, raflant 12 des 13 régions et les plus grandes villes, dont la capitale. Son objectif, désormais, la majorité absolue au Parlement, afin de refermer vraiment la parenthèse Tsipras.
Reportage signé Marie-Pierre Véraud. Ils se sont mis d'accord et c'est peut-être un signe de la fin des tensions au Soudan. L'opposition et les généraux au pouvoir ont passé un marché dans la nuit. Les pouvoirs de l'instance de transition seront partagés entre les deux camps militaires et civils avant les prochaines élections nationales. Il était très attendu au Venezuela. Le rapport sur la situation des droits de l'homme dans le pays de l'ONU a été publié hier et il va être présenté aujourd'hui à Genève par Michel Bachelet, haut commissaire aux droits de l'homme. Benjamin Delisle a pu le consulter et contrairement à ce que craignait l'opposition vénézuélienne, c'est un coup dur pour le gouvernement qui se voit attribuer une responsabilité majeure dans la plupart des violations des droits de l'homme au cours de ces 10 dernières années. Benjamin Delisle.
Selon les conclusions de ce rapport, le gouvernement est doublement responsable de violations des droits de l'homme. Face à la crise économique, d'abord en ne prenant pas les mesures adéquates, mais surtout, je cite, en utilisant des programmes sociaux de manière discriminatoire pour des raisons politiques et comme instrument de contrôle social. Le rapport précise que les sanctions américaines aggravent la crise, mais n'en sont pas la cause, contrairement à ce qu'affirme le gouvernement. Face à la crise politique, ensuite, les autorités sont accusées d'avoir adopté pendant plus d'une décennie des mesures qui ont réduit l'espace démocratique, fragiliser les institutions et limiter l'indépendance de la justice. Autant de mesures qui leur auraient permis, je cite, « de neutraliser, réprimer et incriminer les opposants politiques ». Le rapport souligne que le nombre de personnes tuées ces derniers mois pour résistance à l'autorité est anormalement élevé, près de 5300 en 2018 selon les chiffres du gouvernement. L'ONU recense également 52 morts dans des manifestations cette année attribuables aux forces de sécurité gouvernementales ou à des groupes civils pro-gouvernementaux appelés collectivos. Le Haut Commissariat appelle donc le gouvernement à prendre des mesures immédiates et concrètes pour mettre fin aux graves violations des droits économiques, sociaux, civils, politiques et culturels.
Et correspondance à Caracas, signé Benjamin Delisle. Et le rapport estime également qu'au 31 mai, 793 personnes étaient privées arbitrairement de leur liberté. L'opposition a d'ailleurs appelé à manifester aujourd'hui contre les violations des droits de l'homme au Venezuela à l'occasion de la fête nationale. C'est l'une des banques considérées comme parmi les plus importantes du système financier mondial. Mais la Deutsche Bank en Allemagne est plombée. Elle devrait annoncer dimanche un vaste plan de restructuration qui pourrait lui coûter entre 3 et 5 milliards d'euros. À Berlin, Ludovic Piétenu.
La Deutsche Bank s'était déjà séparée de 7000 salariés l'an dernier. Elle emploie aujourd'hui encore 91 500 personnes à travers le monde et pourrait annoncer de 15 à 20 000 suppressions d'emplois. Des licenciements massifs qui s'étendraient sur plus d'un an et hormis l'Allemagne plutôt épargnée qui concernerait tous les pays et toutes les activités de la banque. Mais surtout, la banque de financement et d'investissement, celle qui gère les activités de marché, les grandes entreprises, les fusions, les acquisitions, ce sont ces salariés qui paieraient le plus lourd tribut. Ils sont surtout basés aux États-Unis, car c'est outre-Atlantique que la banque allemande perd des parts de marché face à ses concurrentes américaines de Wall Street. C'est aussi cette activité très risquée qui l'a mise dans le rouge depuis la crise financière de 2007-2008. La première banque allemande, vieille de près de 150 ans, doit, pour se sauver, revenir à des activités plus traditionnelles ou plus sûres, comme la gestion des grandes fortunes privées.
Ludovic Piétenu. Le temps est bien estival ce vendredi, un beau soleil partout à part sur la façade atlantique où le ciel est mitigé avec des averses de la Bretagne au Pays Basque. Les températures ce matin sont fraîches sur les côtes de la Manche et la moitié nord, il fait de 11 à 16 degrés. Sur la moitié sud, c'est mieux, il fait entre 17 et 24 degrés.